Deborah Waldman, avec votre directeur général de l'orchestre, vous venez de présenter la saison 2023-2024 de l'Orchestre National Avignon-Provence. Au niveau de la programmation, vous vous êtes calé sur les thèmes choisis par Frédéric Rouls, le directeur de l'Opéra d'Avignon, qui tourne autour de la magie du sortilège. Un thème imposé pour une musicienne et une programmatrice, c'est une contrainte ou au contraire, ça excite l'imagination?
C'était pas du tout un thème imposé, c'est juste que j'aime bien que la programmation générale ait une cohérence, et donc je lui ai posé la question par pure curiosité et il a eu la gentillesse de me répondre parce qu'il avait il y a 2 ans donc les thèmes et à ce moment-là ça a tout de suite donné des idées. Plutôt ça excite, donc je me suis un peu tourné la chose en disant je ne vais pas me caler exactement sur son thème mais je vais prendre ça et je vais le poser en question, comme j'aime bien faire, poser des questions. Et donc pourquoi nous avons besoin de la musique? En quoi la musique nous est irrésistible? Et donc c'est une magie.
La magie, les sortilèges, par moments ça peut régénérer. Ça peut transformer, ça peut par moments aussi abattre d'une certaine manière. Est-ce qu'on va retrouver les deux aspects des sortilèges dans votre programmation?
Nous parlons plutôt de la bonne magie. Et en effet, on a un programme qui s'appelle Métamorphose, donc qui nous transforme, comme je crois que chaque musique nous transforme, comme chaque livre, comme chaque instant. Je suis plutôt quelqu'un de très positif, souriant, et donc j'espère que cette magie aille toujours dans le bon sens pour chacun.
Au niveau des chefs et au niveau des solistes, ce qui frappe quand même, c'est la jeunesse.
En effet, c'était en consultation avec notre directeur général qui voulait donner un peu plus de jeunesse à certains programmes. Aussi, il y avait certains programmes qui sont des reprises, donc on a pris les chefs qui étaient déjà et par hasard, c'était des jeunes chefs. Oui, c'est vrai, il y a quand même des chefs confirmés. En fait, c'est deux mondes qui se succèdent aussi un peu. Il y a une transmission, il y a un peu des échanges entre ces deux mondes. Je pense que ça nourrit différemment l'orchestre, tout simplement.
La jeunesse, la nouvelle génération d'un soliste ou d'un chef, est-ce que ça permet de redécouvrir certaines pièces classiques? Parce que par exemple, on va avoir la symphonie numéro 40 de Mozart, bon, on va avoir les concertos brandebourgeois de Bach qui vont être interprétés par un clavieriste qui a quand même une certaine bouteille, comme vous avez utilisé le terme. Mais est-ce que la jeunesse du ou de la soliste, du ou de la chef, ça peut transformer la direction d'une œuvre?
Complètement. Déjà, n'importe quelle œuvre interprétée même par des deux chefs de la même génération, complètement différente, naturellement. C'est vrai que c'est des chefs-d'œuvre. Je trouve que les jeunes, ce qu'on dit, un peu les clichés, ils ont un peu dans la fugue de l'énergie. Mais je pense que même les vieux, entre guillemets, ont de l'énergie. D'ailleurs, des fois, elle est transmise plus profondément. Donc, les deux ont quelque chose à apporter.
Alors, on connaît votre passion et votre prédilection pour les compositrices. Mm-hmm. Donc on va retrouver certaines compositrices que maintenant on connaît bien sur Avignon, hein, Sophie Cale, Louise Farenc. Et puis il y en a d'autres, notamment il y a une ouverture à des musiciennes et des compositrices étrangères.
Oui, tout à fait, parce que je pense tout simplement qu'on a un peu fait les tours des répertoires français qui existaient pour notre formation. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et en effet, Lucia Garuta, une compositrice lettonne, et Gurne Kreith, une compositrice américaine. En effet, on est obligé d'aller chercher ailleurs pour pouvoir tout simplement jouer des compositrices.
C'est vous qui les trouvez, qui les repérez, ces compositrices, ou est-ce que ce sont des chefs ou des solistes qui vous les amènent?
Alors, les musiciens dans le milieu, ils connaissent mon intérêt. Et donc, quand quelqu'un m'approche pour un projet, tout de suite, je pose la question, est-ce que vous avez une compositrice? Et si c'est le cas, bah, c'est sûr que c'est gagnant. Bien sûr, si la musique elle est bonne. Et sinon, bien sûr, je travaille avec plusieurs personnes, et Eloïse Luzzatti notamment, Claire Baudin aussi. Comme ça, on a plusieurs à ouvrir pour la même cause. Et aussi l'association Compose Her.
Vous avez insisté sur le fait que ces compositrices seraient illustrées à travers des concertos. Pourquoi le concerto en particulier?
Je pense que ces compositrices n'ont pas pu s'épanouir comme elles voulaient dans le domaine symphonique. Et donc, elles ont plutôt percé ou se sont exprimées par les concertos. Et c'est vrai que je trouve que dans les concertos des compositrices, leur musique, elle est très belle, extrêmement belle, particulièrement belle. Soit parce que donc, les symphonies n'existaient pas. Par exemple, Charlotte Soye, elle a écrit une seule symphonie. Et 0 concerto. Marie-Jaël, elle a écrit 2 concertos pour piano, 1 pour violoncelle, mais aucune symphonie. Donc on a cette chose avec les compositrices qui n'est pas aussi systématique que les compositeurs. Ils ont tous des ouvertures, tous des concertos, plusieurs, et beaucoup de symphonies parfois. Donc c'est tout simplement un heureux concours de circonstances qui a fait que j'ai rassemblé ces œuvres qui étaient belles côte à côte.
Dans le travail d'une formation symphonique, quelle est la part entre le répertoire classique, entre la découverte ou la redécouverte de musiciens, même anciens, mais qui sont complètement oubliés, et le travail sur l'écriture contemporaine, parce qu'il va y avoir quand même la création aussi d'une symphonie contemporaine composée par un homme, il faut le préciser.
Oui, absolument. Pour le moment.
Il reste quelques-uns.
Oui, mais là, vous savez, donc, unanime le projet pour les compositrices de l'histoire. Je suis une ardente défenseuse aussi du grand répertoire. Le grand répertoire, il se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'autre chose pour le grand répertoire pour qu'il existe. Et en effet, comme toutes les nouveautés, entre guillemets, prend du temps pour rentrer dans l'imaginaire et dans le subconscient des gens. C'est tout simplement un travail de durée, de longue durée, et qui doit être repris par les jeunes chefs, justement, pour que nos enfants ils grandissent avec cette musique-là. C'est ça le gros travail à faire.
Donc, il va y avoir des concerts symphoniques. Il va y avoir aussi toute la saison lyrique à assurer avec la programmation de Frédéric Rousse à l'Opéra d'Avignon. Et puis, il y a donc même dans les concerts symphoniques des rendez-vous avec des musiciens qui viennent d'autres cultures. Il y a des rendez-vous avec des gens de théâtre, des gens qui viennent de la danse. Mm-hmm. Est-ce que ce type de dialogue, de transversalité avec d'autres arts, mm-hmm. c'est une condition sine qua non à la survie d'un orchestre ?
Peut-être, c'est un peu à la mode aujourd'hui, mais vraiment, je suis convaincue que ce n'est pas nécessaire. Il suffit de montrer au public le merveilleux qui est ne serait-ce qu'une symphonie de Mozart. Un accord joué par un orchestre, c'est déjà magique. En fait, aujourd'hui, je suis à un moment de réflexion profonde, justement, parce que je vois que ça évolue, qu'on est obligé de se mettre à cette mode, cette transformation, mais je suis convaincue que la musique, elle se suffit à elle-même. Et au moment où on comprendra ça, on pourra tout simplement jouer une symphonie et on n'a pas besoin de danser à côté.
On s'aperçoit aussi dans la programmation qu'il y a de plus en plus de chefs d'orchestre. Mm-hmm. Vous n'êtes plus tout à fait seule.
Ah ben, heureusement, j'étais la première et je n'étais pas seule non plus à l'époque. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on fait confiance aux jeunes filles des 30 ans. Par exemple, vous avez vu, à Orange, on a confié Carmen à une jeune femme, chef d'orchestre, et j'ai trouvé ça génial parce que c'est tout nouveau, il y a 15 ans c'était impossible.
Un dernier mot sur le projet Demos. Mm-hmm. Là on rentre dans la troisième année, mais en fait Demos c'est un projet qui s'adresse à la jeunesse, mais les jeunes musiciens en fait ils ne changent pas d'une saison sur l'autre, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait c'est un véritable travail d'académie.
Absolument, qui dure donc sur un cycle de 3 ans. Puis, des fois il y a certains abandons, mais vraiment l'équipe font des travaux impressionnants pour garder les groupes. Et c'est vrai qu'ils sont heureux et donc ils veulent continuer. C'est ça, on les apprend à d'abord aimer la musique et puisqu'ils les aiment, ils feront tout pour la faire tout le temps.
Une très belle saison.
Merci beaucoup à vous.